16h51, salut Raph.
Salut Pat.
Donc, la Maison-Blanche qui dévoile son plan de réouverture de l'Amérique.
Elle l'a fait hier soir, ça en était parlé avant l'annonce. L'annonce s'est faite, je te dirais, de façon, dans le contexte de la présidence Trump, là, assez protocolaire. Et tu te rappelleras, tu me demandais, tu sais, c'est juste son équipe économique qui est derrière ça ou il y a aussi son équipe de santé? Bien, ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, pas mal tout le monde était uni derrière ça, incluant ses scientifiques, incluant le Dr Fauci, le Dr Birx, et c'est pas mal tout le monde qui a bien réagi parce que, dit simplement, ça laisse la voie libre au gouverneur. Pour des raisons évidentes, on s'en est parlé assez souvent à l'émission. Écoute, t'as plus de 11 000 morts à New York, t'en as un au Wyoming. C'est un petit peu de la folie de penser que tout le monde va avoir la même approche, une approche uniforme. Or, où le bas blesse, ben c'est que Donald Trump, ça reste Donald Trump. Donc, ça pouvait pas durer. Et aujourd'hui, t'as eu une série de tweets, écoute, pour lesquels les mots manquent un peu. Il a commencé en s'en prenant à Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York. Et après ça, il a, je sais pas si tu as vu ça, il a enfilé une série de tweets en lettres majuscules. Libérer, c'est le mot exact qu'il a utilisé, là, libérer le Michigan, libérer le Minnesota, et dans un cas encore plus surréel, libérer la Virginie et protéger votre deuxième amendement. Autrement dit, il semble encourager une espèce de mutinerie symbolique là, contre les gouverneurs démocrates, il faut le rappeler, de ces États-là qui, selon Donald Trump, sont peut-être trop hésitants à rouvrir leurs États. Mais le fait d'invoquer, en plus de ça, le deuxième amendement, qui on le rappelle, évidemment, l'amendement de la Constitution qui protège le port d'armes à feu, évidemment, c'est venu susciter des réactions à la fois d'incompréhension et de colère. Parce qu'en quoi est-ce que le président des États-Unis est censé tenir ce genre de propos-là moins de 24 heures après, en plus, avoir dit qu'elle allait laisser au gouverneur la gestion de cette affaire-là. Écoute, je te laisse avec ceci sur ce point-là. C'est peut-être pas surprenant dans ce contexte-ci que le taux d'approbation de Donald Trump est replongé et que là, ça soit maintenant une pluralité d'Américains qui désapprouvent à la fois de sa performance générale comme président, mais aussi de sa performance pour ce qui est de la gestion de la crise du coronavirus. Et tu t'en rappelleras, on s'en était parlé. Il y a 2-3 semaines, c'était pas ça, là. Il y a eu une petite période de temps où il a essayé de jouer à l'homme d'État. Ben, ça a pas duré et il est en train de payer le prix auprès de l'opinion publique, là.
Raph, sais-tu ce que j'ai aimé au moins, c'est qu'Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, parce que Trump l'a aussi asticoté ce matin en disant bon, qu'il arrête de se plaindre puis qu'il travaille. Et enfin, Cuomo a répliqué, puis répliqué un peu à la Trump en disant ben lui, s'il arrêtait d'écouter la télé puis qu'il travaillait, ça donnerait peut-être un coup de main. Là. Je paraphrase, mais c'est à peu près ça. Et c'est rare que quelqu'un d'aussi influent s'en prend aussi directement au président.
Surtout dans un contexte, Philippe, où Andrew Cuomo a eu 1001 occasions depuis le début de la crise pour répliquer à Donald Trump, avait toujours fait en fait ce que Donald Trump se refuse clairement de faire, c'est-à-dire s'élever au-dessus de la mêlée. Il s'était toujours élevé au-dessus de la mêlée. Et là, écoute, aujourd'hui, c'était tellement, non seulement hors norme, mais inacceptable pour tellement d'Américains et tellement d'élus, de gouverneurs, que je pense qu'il a parlé au nom de bien des gens en disant « Écoute, là, ça, on s'entend que ça dépasse les bornes, je vais répliquer. » Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes là, raisonnables qui vont prendre le parti pris du président dans ce contexte-ci. Là.
OK, parle-nous, Raphaël. Philippe en a fait mention au début de l'émission. Là, aux États-Unis, les foyers pour personnes âgées, ça ressemble un peu à nos CHSLD, c'est-à-dire quand ça frappe la COVID, ça frappe fort.
Oui, et il faut pas oublier, parce qu'évidemment, on est tellement dans le quotidien avec cette affaire-là, mais qu'aux États-Unis, ça a commencé, cette crise-là, en bonne partie, dans un foyer de personnes âgées à Seattle, dans l'État de Washington, et c'était à peu près le tiers des résidents du foyer en question qui avait péri de la COVID-19. Là, c'est plus juste limité à un foyer dans une ville, dans un État. T'avais le New York Times et le Wall Street Journal cette semaine qui faisait état de plus de 2000 foyers de personnes âgées aux États-Unis qui ont été infectés. Dans certains cas, écoute, c'est rendu que dans des États comme le Connecticut, c'est presque à la moitié des décès à la COVID-19 qui proviennent de foyers de personnes âgées. T'as eu un scandale assez épouvantable dans le New Jersey qui a été dévoilé aujourd'hui, dans lequel on a trouvé dans une résidence 17 corps entassés dans une toute petite mort qui était faite pour 4 personnes. Encore une fois, on parle de résidence de personnes âgées. Et j'ajoute également ceci, parce que là, il va falloir commencer à penser à ça à terme, là. Il risque d'avoir des poursuites contre certains de ces foyers-là. Et t'as le gouverneur de la Floride qui est déjà en pourparlers pour peut-être essayer de donner de façon préventive, proactive, une immunité légale aux foyers de personnes âgées de son
Pourquoi?
État. Parce qu'il veut les protéger. Probablement parce qu'il y a des liens politiques, on s'entend avec ces dirigeants-là de foyers de personnes âgées, et qu'on se dit que c'est une question de temps avant qu'en Floride, comme à bien des endroits aux États-Unis, on soit frappé par une poursuite après l'autre.
T'sais, même le monde du sport est inquiet avec ça, parce que ce qui arrive quoi si on rouvre les stades, et puis là, tout à coup, quelqu'un attrape la COVID, puis le foyer, c'était dans le stade, dans le gradin, est-ce que les organisations pourraient être poursuivies?
On sait qu'aux États-Unis, les dommages qui sont attribués par des jurys, Philippe et Raphaël, sont tellement immenses qu'il y a toute une industrie de la poursuite.
Exactement. Absolument. Tu sais, on s'en parle souvent comme quoi il y a tellement de questions, tellement complexes qui se posent dans le contexte de la COVID-19. Les questions juridiques, tôt ou tard, ça va commencer à faire partie du lot aussi. Là.
Parfait. Merci, Raphaël. Excellent week-end. On se reparle lundi.
Bon week-end.
Salut.
Bien, M. Quentin, vous êtes libéré.
Ben oui.
Excellent week-end à vous aussi.
Toi aussi, Patrick.
Allez
et
vous
à
ressourcer.
Tout le monde.
Merci de ta contribution toujours exceptionnelle. Après la pause, on va parler avec nos chroniqueurs de la troisième heure, mais aussi avec l'infirmière à la retraite, Lise Lucier. Va nous raconter, Mme Lucier, toutes les démarches un petit peu dignes de Kafka pour se faire embaucher comme infirmière. Elle est infirmière. C'est très, très long.